Bonsoir à toutes et à tous. Et bonjour Turbine, épisode 70 qui revient vous titiller les oreilles en direct sur Station B et en différé sur Radio Pulse à Alençon. Ce soir, c'est Marion qui assurera la technique, Thomas et David nous éclaireront avec leur chronique et Raphaël m'accompagnera pour l'animation de cette émission.
Merci Alain de m'accorder ta confiance pour co-animer à tes côtés ce soir. Ravi de retrouver ce plateau, cette émission. Désolé à nos auditeurices pour ce démarrage un peu retardé, mais un super sujet aujourd'hui pour vous, puisque nous allons nous intéresser aux confréries avec deux invités. Déjà en studio avec nous, Jacques Lelandais, grand maître, et oui, quel honneur, de la confrérie de gastronomie normande, la Tripière d'Or. Bonjour à vous.
Bonsoir.
Bonsoir, oui, on peut le dire à cette heure-là. Et dans quelques instants, aussi en plateau, Claude Bossard. Il est sur la route, maire adjoint de la commune de Luc-sur-Mer et grand baleinier de la confrérie de la Baleine. Alors, nos éminents convives vont expliquer en détail les rituels auxquels ils s'adonnent. Avant cela, Alain, toi qui es bon pédagogue, tu souhaitais nous définir le sujet du jour.
Oui, selon le Petit Larousse, une confrérie est une association de laïcs, hommes ou femmes, fondée sur des principes religieux. En Suisse, c'est une association corporative. Pour le Robert, c'est une association pieuse de laïcs. Les confréries sont donc, depuis l'Antiquité déjà, mais surtout depuis le Moyen-Âge, dans le monde occidental, des regroupements de laïcs chrétiens ayant pour but de valoriser une entraide fraternelle et ou de développer ou animer une tradition religieuse particulière. En France, les principales sont les confréries du Rosaire et les compagnies du Saint-Sacrement. D'autres existent, comme la confrérie des cinq plaies de Jésus-Christ. On trouve aussi de nombreuses confréries en Espagne, par exemple. Nombre d'entre elles existent toujours et perpétuent fêtes et traditions religieuses.
On comprend bien que les confréries sont un type d'organisation vieux comme Hérode, mais on va peut-être pas refaire toute l'histoire.
Oui, je m'arrête là, Raphaël, sur cet aspect. De nombreux sites et ouvrages existent sur ce sujet. Je vous conseille de les consulter pour en savoir plus à propos de ces confréries militaires, les confréries religieuses, de dévotion, de pèlerinage, de pénitents, caritatives ou encore les fraternités estudiantines très développées dans le monde anglo-saxon. Nous avons choisi de mettre l'accent sur les confréries plus épicuriennes, gourmandes, qu'elles soient gastronomiques, bachiques, vineuses ou des confréries plus folkloriques ou patrimoniales. Nous avons donc invité des représentants de deux de ces confréries, à savoir la confrérie de gastronomie normande La Tripière d'Or et la confrérie de la Baleine de Luc-sur-Mer.
Notre premier invité avec nous, on l'a dit, en studio, Jacques Lelandais, grand maître de la Tripière d'Or, et Claude Bossard de la confrérie de la Baleine nous rejoindra très vite. Alors, Jacques Lelandais, je le rappelle, le grand maître de la Tripière d'Or. Je trouve ça très classe d'avoir un grand maître en studio avec nous. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous présenter en quelques mots la confrérie que vous représentez et ses buts qui ne sont pas forcément évidents pour tout le monde?
Alors, bien entendu, la confrérie de gastronomie normande, la Tripière d'Or, est certainement la confrérie la plus ancienne d'un produit alimentaire solide, puisque nous avons encore plus anciennes les confréries vineuses. Et si vous voulez, le but premier de la Tripière d'Or, c'est de défendre la tripe à la mode de Caen. Et ce produit gastronomique, et je dirais diététique, puisqu'il n'est pas gras, est donc tous les ans mis à l'honneur par un concours auprès de tous les métiers de bouche qui pratiquent la tripe à la mode de Caen.
Quels sont les critères sur lesquels vous vous appuyez pour évaluer et juger les recettes qui vous sont amenées?
Alors, il y a trois critères principaux. Vous avez l'aspect, vous avez ensuite le parfum, l'odeur et ensuite la saveur. Alors, bien entendu, dans ces trois critères, de nombreux petits détails rentrent en jeu. C'est-à-dire que l'aspect, c'est déjà, vous regardez si c'est très joli à voir, si la viande est bien découpée, si la sauce est bien dorée, si les carottes ne sont pas racornies, si, comment je veux dire, aucun produit n'est en suspension. Bien entendu, ça s'appelle la tripe à la mode de Caen, de concours. Le métier de bouche, le charcutier, le boucher ou le conserveur ne va pas découper ces morceaux de 5 cm par 5 cm, quoique, il y en a qui le font encore, ne va pas filtrer sa sauce. quand vous mangez de la tripe, vous n'allez pas voir s'il y a un petit oignon qui flotte. Dans un concours, on joue sur tous ces points-là. Ensuite, dans le parfum je dirais que le parfum est dû aussi à partir d'un bouquet garni. Ce bouquet garni, il ne doit pas prendre le nez, il doit être agréable au nez. Il ne doit pas aussi avoir de temps en temps, vous avez des gens qui mettent beaucoup de clou de girofle, ça embaume le clou de girofle, mais ça détruit en fin de compte le parfum que vous attendez. Et puis un bon parfum de viande, hein, c'est une viande qui cuit. Alors, question saveur, bien entendu, comme pour le nez, tout à l'heure, je vous parlais, c'est avoir d'un nez long, c'est-à-dire d'avoir une odeur qui perdure dans vos narines. Et c'est pareil pour le goût, c'est-à-dire que la viande doit être bien confite, c'est-à-dire que la viande est cuite entre 22 et 24 heures. C'est un critère de viande confite, voyez-vous, et qui vous apporte tous les parfums. Et ensuite, dans la saveur, bien entendu, c'est s'il n'y a pas trop de sel, s'il n'y a pas trop de poivre, parce que des fois, vous savez, la poivrière tombe dans la préparation, mais quand vous faites une tripe qui fait 25 kilos, vous vous dites ça va passer. Et des gens avertis comme les Juras et les grands Juras, bien entendu, vous le sentez s'il y a une petite pointe de sel. Vous sentez des fois aussi s'il y a certains produits qui ne devraient pas être dans la tripe. C'est-à-dire que n'oublions pas que la tripe à la mode de Caen ne se fait sans alcool. Faut pas l'oublier.
Alors, je vois notre invité notre deuxième invité qui arrive de la confrérie de la baleine, Claude Bossard. Ils ont l'air de se connaître avec Jacques Lelandais. On va le laisser s'installer au micro et poser une nouvelle question à Jacques Lelandais de la Tripière d'Or en attendant. On l'a dit, la Tripière d'Or défend la tripe à la mode de Caen et remet du coup des prix, un prix de la
Tripière d'Or.
De la Tripière d'Or. Voilà, donc quelle importance ça représente de se voir en tant que boucher, charcutier, se décerner ce prix?
Alors déjà, c'est une belle récompense dans la mesure où ça met en avant le métier. N'oublions pas que nous sommes dans des professions gastronomiques, donc manuelles, et en fin de compte, nous attendons un véritable professionnalisme de ces gens-là. Et lorsque vous gagnez la Tripière d'Or, je puis vous assurer que votre chiffre d'affaires augmente de façon considérable. Je vous dirais que dernièrement, celui qui vient de gagner, le boucher GG de Ouistreham, a vu sa quantité de tripes passer de 50 kilos à 600 kilos, 800 kilos.
Il faut suivre derrière.
Il faut suivre, il faut que le personnel suive aussi. Mais ça met en valeur, voyez-vous, tous ces métiers de bouche. Tous ces métiers, parce que concours pour cette Tripière d'Or, les bouchers, les charcutiers, les conserveurs, les tripiers, les restaurateurs, les traiteurs, tous ces gens, je vous dis, qui travaillent dans la gastronomie. Et ce produit-là, qui est un produit noble, hein, et très ancien, puisque je dirais que c'est Sidoine Benoît, un moine à l'époque de Guillaume le Conquérant, qui un jour, avec ses abats et ses goûts, comme on disait, créer la tripe.
Et donc là, on parle de la création de la tripe. Juste avant de passer à notre deuxième invité, pour les questions, on disait que c'est la plus ancienne confrérie pour un produit solide, alimentaire. C'est-à-dire, elle a été créée quand, la Tripière d'Or ?
En 1951.
D'accord.
C'est-à-dire, est déclarée en 1952. Okay.
Ah, ça paraît pas si vieux que ça, mais non, c'est quand même la plus... Parce que les anciennes confréries étaient plutôt sur d'autres...
C'est ça, c'est surtout les premières confréries, ce sont les confréries vineuses.
Oui, d'accord.
Bien entendu, dès l'instant qu'on parle de gastronomie...
Parce que là, avec notre nouvel invité, on est sur autre chose que de la gastronomie, c'est encore plus original.
Alors bonsoir Claude Bossard, je vous ai appelé grand baleinier, je ne me suis pas trompé.
Oui, c'est exact, oui. C'est ce qu'on m'a attribué depuis une dizaine d'années que je suis effectivement grand baleinier au niveau de la confrérie de la baleine. Alors c'est évident que n'importe qui ne peut pas être... à la confrérie de la baleine, puisque en réalité, ce sont des membres qui sont élus par le conseil d'administration, c'est-à-dire ce qu'on appelle le chapitre. Hein.
C'est ça.
Donc, effectivement, moi, je suis arrivé en 2010 au niveau de Luxe-sur-Mer et il y avait besoin de reprendre en main la maison de la baleine. Donc, c'était relativement important. Donc, le nouveau maire, Philippe Chalut, effectivement, m'a sollicité pour reprendre cette maison de la baleine. Donc, d'emblée, ben, je me suis retrouvé, bien sûr, intronisé, puisque nous avons des intronisations. Je suppose que au niveau de la trépierre d'or, c'est exactement pareil.
Oui, on va expliquer tous ces rituels-là un peu plus tout à
l'heure. Mais c'est pas la même confrérie.
Alors justement, cette fameuse baleine, est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous dire quels sont les buts de votre confrérie qui, je le rappelle, ne promeut pas la dégustation de la viande de ce fascinant mammifère marin?
Non, alors justement, par rapport à mon confrère, les trépierres d'or, qui font un produit exceptionnel. Et nous, on n'a rien à manger. Puisque, effectivement, l'histoire de la confrérie de la baleine, il faut remonter, effectivement, dans la nuit du 14 janvier au 15 janvier 1885, où il y a une baleine qui a échoué sur nos côtes, notamment entre Langrune et puis Luxe-sur-Mer. Et depuis cet échouage de la baleine, bah, effectivement, il y a beaucoup d'histoires qui se sont passées derrière, puisque je peux vous assurer que les élus à l'époque, ils ne savaient pas trop quoi faire de ce monstre, hein, puisque c'est un monstre de 40 tonnes qui fait 25 mètres de long. Et puis plus le temps passait, plus l'odeur de cette baleine, ça devenait difficile à soutenir. Et puis, c'était forcément à l'époque un côté attractif, puisque de mémoire, je crois qu'il devait y avoir à peu près 11 trains par jour. C'était énorme. Les gens venaient de Caen. Il y avait un train à l'époque. Il y a toujours la gare, d'ailleurs. Et les gens venaient effectivement voir ce monstre sur la plage de Luc et Langrune. Et puis, effectivement, nous avions de la chance, c'est qu'en 1775, il y a eu la création du laboratoire maritime à Luxe-sur-Mer, qui était à Luc, et qui a pu prendre en main cette baleine. Alors, le directeur de l'université de Caen, effectivement, a pris cette baleine en main, et puis ils ont décidé de vendre la graisse déjà. C'est-à-dire que la graisse, il y avait une quantité relativement importante. Et à l'époque, avec de la graisse, on faisait du savon. Et puis le reste, eh bien, on a dépecé la baleine et puis ils ont récupéré le squelette. Le squelette est réapparu dans le jardin des plantes pendant un certain temps. Et puis après, il était place Saint-Sauveur, dans l'église Saint-Sauveur.
Il me semble aussi.
Voilà. Et puis le problème, c'est qu'à un moment donné... Et il fallait que le Saint-Sauveur, la fameuse église, là, il voulait faire un marché au beurre. Voilà, donc c'était relativement important. Donc en 1937, le squelette de la baleine a failli aller à la décharge.
Mais il a fini par revenir
à Luc-sur-Mer. Et il a fini par revenir à Luc-sur-Mer grâce à Pierre Laurent de l'époque qui était maire. Et il est revenu effectivement à Luc-sur-Mer en 1937.
Et donc, ce squelette-là, c'est vraiment au cœur des actions de votre confrérie.
En 1966, il y a eu des idées, effectivement, de faire une confrérie. Voilà. En disant, ça serait comme bien qu'on puisse créer quelque chose pour vénérer autre chose qu'une association. Hein. Et effectivement, ils ont regardé un petit peu ce qui se passait dans le cadre des confréries qu'il pouvait y avoir un petit peu ailleurs.
Mais du coup, avec dès le départ une idée un peu parodique.
Voilà. Alors, à l'époque, c'était le directeur du casino et puis Braque de la Perrière, Chabriac, je crois, qui effectivement avait eu l'idée de faire une confrérie. Et en 1966, c'est M. Kikmel qui était le grand maître et qui a créé cette confrérie. Voilà, donc ça date de 1966. Et puis après, ben effectivement, il y a les intronisations au mois de juillet, au mois d'août, depuis 1966. Et aujourd'hui, ben, on se retrouve encore actif, hein, une centaine d'adhérents, ce qui est déjà pas mal. Et puis après, effectivement, en 1900... 92. Oui, 92. On a créé effectivement la maison de la baleine. Parce qu'on s'est dit, la confrérie, c'est bien, mais et de côté, on n'a rien à montrer. Il faut qu'on puisse le raconter
l'histoire.
Il faut
aussi que ça profite au grand public.
Voilà. Donc, la maison de la baleine, elle existe depuis 30 ans maintenant.
On va continuer dans quelques minutes à parler des actions de la confrérie de la baleine. Comment ça se passe entre vous et puis ce que vous faites vis-à-vis du public. Idem pour la tripière d'or, ce que vous avez en commun aussi. J'imagine qu'il y a peut-être un vocabulaire ou les intronisations, les chapitres, des choses qui marchent plus ou moins de la même manière. On jouera un peu au jeu des sept différences. Mais d'abord, c'est le moment de retrouver la première capsule pédagogique et véridique de cette émission.
Alors vous le savez, dans chaque émission, nous proposons 3 CPV, comme vient de le dire Raphaël. Alors pour cette première, chers invités, chers auditeurs, je vous propose d'écouter l'extrait d'un hymne propre à une confrérie bien particulière. Alors à vous de deviner de quelle confrérie il s'agit.
Encore !
Alors, chers invités, est-ce que vous avez une petite idée ? Tu peux aussi jouer, Raphaël, à votre avis. Il ne s'agit pas d'une confrérie qui est liée à la dégustation, à l'alimentation.
La vie des chats ?
Pas du tout.
C'est par rapport à des animaux ?
C'est plutôt par rapport au physique de l'homme. C'est très lié à l'homme. À l'homme avec un petit H. Les chauves, effectivement, à la technique. Ah. Marion, il s'agit de la Confrérie Nationale des Chauves de France, la CNCF. Elle a été fondée en 1957 à Savenay, en Loire-Atlantique, par le coiffeur Robert Guégan, afin de lutter avec humour contre l'exclusion des chauves et leur permettre de se départir de leur anxiété, pas de leur complexe. Alors, chose amusante, ils doivent prêter serment sur une boule de billard. Alors voilà, on salue cette confrérie aux cheveux rares, mais aux idées larges.
Et pour les coulisses, tout le monde était en train de vérifier les cheveux de ses voisins pendant que Thomas nous parlait de la confrérie des chauves.
Effectivement, et j'y arrive à cette confrérie. Laissez-moi encore quelques années.
Tu nous raconteras. Avant de retrouver une nouvelle CPV et nos invités des confréries de la Tripière d'Or et de la Baleine, une première pause musicale dans cette émission. Petit clin d'œil sur le sujet de la baleine, puisque nous allons écouter une chanson en référence à Paul Watson de l'ONG Sea Shepherd, actuellement détenu au Japon. C'est Watson du groupe Trio.
Pirate des mers, insoumis volontaire, la peinture des corsaires sur tes navires en guerre, du noir sur le bleu, de la houle et du feu. Paul Watson, ton drapeau, la colère dans tes yeux. Au prix de ta vie, tu es l'homme, c'est assez. Sont assez d'ennemis pour te faire chavirer. Mais il est des hommes que personne n'arrête. À la barre, Paul Watson parcourt la planète. Watson navigue dans le bleu loin des terres. Watson, où le chant des baleines résonne. Watson, ce que les hommes font à la mer. Watson ne veut plus les laisser faire.
Sillonner l'Antarctique, défier le Japon, tirer les Féroé de leur vieille tradition. La crosse du berger, le trident de Neptune, l'espoir du guerrier sous un rayon de lune. Se dire que les hommes ne possèdent pas la terre, en chaque espèce en somme l'humanité entière. Les larmes du dauphin, le chant de la baleine,
le mépris des humains, des massacres à la chaîne. Watson navigue dans le bleu loin des terres. Watson, où le chant des baleines résonne. Watson, ce que les hommes font à la mer. Watson ne veut plus les laisser faire. Mmh.
l'avenir de la terre, une vie avec le bleu, la force de la mer,
une vie avec le bleu, la force de la mer. Watson, navigue dans le bleu loin des terres. Watson, où le chant des baleines résonne. Watson, ce que les hommes font à la mer. Watson, ne veut plus les laisser faire. Watson, navigue dans le bleu loin des terres. Watson, où le chant des baleines résonne. Watson, ce que les hommes font à la mer. Watson, ne veut plus les laisser faire. Watson.
Watson du groupe Trio, vous êtes dans Bonjour Turbine sur Station B, Radio Pulse ou peut-être en podcast. Et nous retrouvons tout de suite Thomas avec sa deuxième CPV.
Et merci à Philippe qui vient nous rejoindre en régie. Alors, pour cette deuxième CPV, je vais vous parler actu. En fait, dimanche dernier, 13 octobre 2024, se tenait le 42e concours de saucissons à l'ail au domaine de la Frénée à Falaise. Alors, un événement qui est organisé par la confrérie des goustiers de Falaise, fondée en 1979 tout de même. Et il y avait 24 départements de France qui étaient représentés. Alors, la Somme, les Pyrénées-Orientales et sans oublier les Normands, il y en avait énormément. Alors, c'est dans Ouest-France que j'ai pu lire cet article-là. Il y avait 9 jurys chargés de noter de façon séparée les saucissons fumés et non fumés. Alors, c'est des anciens professionnels ou des amateurs de gastronomie. Et pour le concours 2024 de saucissons à l'ail, le trophée de l'Académie des confréries gastronomiques normandes est attribué à Monsieur Beunier François dans l'Indre-et-Loire, l'Huisme. Voilà, c'est son village natal, enfin le village de sa boucherie. Alors, il y a eu évidemment d'autres récompenses. Je vous cite les ornées récompensées pour faire ma petite sélection. Alors, côté palmarès du concours de saucisson à l'ail fumé catégorie artisan, le premier grand prix international à Monsieur Collet Alexis, basé à C. Et dans la catégorie ouvrier, le premier prix international est décerné à Monsieur Marie-Michaël à Putange-le-Lac. Donc vous savez où vous rendre si vous voulez bien manger.
Eh ben... Eh ben on a du talent hein, dans le saucisson à l'ail aussi, par ici. Incroyable. Alors, toutes ces confréries qui existent, que ce soit la triple, la baleine, le saucisson, il y a souvent des choses assez similaires. Déjà, un chef, le grand maître, le grand baleinier. Pourquoi ce titre et comment vous est-il décerné ?
Alors déjà, vous savez, c'est toujours un mouvement associatif, il ne faut pas l'oublier. La France est un pays qui a certainement le plus d'associations et beaucoup de bénévoles. Hein. Donc, les structures des confréries sont identiques. C'est-à-dire que le grand maître, c'est le président, le grand commandeur, c'est le vice-président, et ainsi de suite, le grand argentier, vous avez tout de suite compris que c'était le trésorier. Ce sont des termes qui sont donnés par rapport... Alors, je pense que quand on regarde un peu du côté de ce qui entourait la noblesse, ça tire un peu dans ce sens-là. On garde les titres. Il n'y a pas encore ni de roi ni d'empereur dans les confréries.
Donc, je m'aperçois que ce soir, grâce à mon ami Jacques, que je suis effectivement grand commandeur parce que je suis vice-président de la confrérie de la baleine. Mais bon, on n'était pas arrivé jusque-là dans ce genre de titre. Peut-être que le grand maître actuel ne connaît peut-être pas non plus tous ces titres-là. Voilà.
Mais vous êtes grand baleinier aussi ?
Oui.
Oui, oui, d'accord.
Oui, oui. Et grand baleinier, donc intronisé. Ça a été chevalier de la baleine. On passe,
il y a plusieurs grands baleiniers.
Il n'y en a pas beaucoup. Les chevaliers de la baleine, c'est ceux qui sont intronisés systématiquement... par le choix du conseil d'administration, parce que tous les ans, eh bien, effectivement, au niveau de notre chapitre, on décide de savoir qui mérite effectivement de rentrer dans la confrérie de la baleine.
Justement, pour continuer là-dessus, comment est-ce qu'on devient membre de votre confrérie ? Comment vous choisissez les gens qui vont
Alors nous,
participer ?
Nous, voyez-vous, ce sont des parrains, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà dans la confrérie, qui font partie du grand conseil, et qui peuvent adouber des candidats jurats pour devenir après être intronisés après 2 ans de pratique dans le concours et bien entendu respecter aussi l'ensemble dans le choix et les critères surtout de reconnaissance de la meilleure troupe du monde, la troupe à la mode de Caen. Et je dirais que Nous avons tous les ans entre 3, 4, 5 demandes. Alors bien entendu, ce que je vais rajouter, c'est que avant de devenir jurat et grand gousier, jurat, vous avez 2 ans d'apprentissage.
Et à la baleine, ça se passe de la même manière, un peu similaire.
De la même manière, oui, dans la mesure où c'est le chapitre qui, sur proposition de ses membres. Puisqu'on élit à peu près 4 à 8 chevaliers de la baleine tous les ans. Et généralement, ce sont des gens qui ont une reconnaissance d'activité très dense au niveau de la commune de Luc. C'est-à-dire des gens qui contribuent à l'animation de Luc. Alors ça peut être aussi des présidents d'associations. Hein, et les présidents d'associations, des fois... On attend des fois 10 ans, 20 ans avant de le reconnaître. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'il est là depuis président depuis un an qu'il peut prétendre être chevalier de la baleine. Non, c'est des gens qui vont vraiment contribuer à l'animation de la ville. Hein, parce que nous, les associations, c'est quelque part, c'est un partenariat entre la commune de Luc et puis l'association. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de bénévoles qu'on essaie d'introniser, notamment au niveau de la régie animation qu'on a créée en 2016. Et donc on fait à peu près 4-5 intronisations au mois de juillet, 4-5 intronisations au mois d'août. Mais ça peut être aussi des gens qui n'ont rien apporté à Luc, sauf que c'est une reconnaissance. Il y a 2 ans, par exemple, on a intronisé Joël Bruno. Pourquoi ? Ben, tout simplement, c'est qu'on s'est dit... le maire de Caen, Joël Bruno, ça serait bien qu'on puisse l'introniser parce qu'on n'y avait pas pensé. Et il a quand même eu abrité notre squelette de la baleine pendant 50 ans. Donc c'est quand même bien que le maire de Caen soit chevalier de la baleine. Voilà. Mais bon, c'est vrai que des fois, ça peut être notre député. Notre conseiller départemental, voilà. Mais la priorité, c'est quand même aux gens qui sont reconnus et qui retroussent les manches au niveau de la commune de Luc.
Vous avez la tripière d'or des gens qui comptent, qui pèsent un petit peu dans la vie politique ou économique, locale.
Vous lirez dans la revue que je vous ai offerte, qui retrace les 70 ans de la tripière, vous avez des Jacques Chirac a été intronisé à la tripière d'or, Barbara Hendricks, et tout, Eddie Mitchell, il y a toute une liste qui pourrait vous être donnée. Ben oui, c'est comme disait mon ami, pour la baleine, c'est exactement la même chose. C'est que vous avez des gens quand ils viennent à Caen, bien entendu, ils vont vous demander, tiens, je voudrais bien goûter les tripes à la mode de Caen. Et il se passe la chose suivante, c'est que, sachant que les gens aiment la tripe, eh ben, on les intronise. C'est aussi une reconnaissance croisée, c'est-à-dire la reconnaissance croisée de la personne qui mange des tripes à la mode de Caen et nous qui faisons rentrer dans la liste des personnages de la confrérie. C'est, en fin de compte, on pérennise la chose à travers ces intronisations.
Pour autant, Jacques Chirac, Barbara Hendricks, j'imagine que ce n'est pas ceux qu'on voit le plus souvent à la tripière d'or.
Non.
Quand on est dans une confrérie, on se réunit toutes les semaines, tous les mois.
Alors, c'est le fonctionnement de la confrérie, c'est-à-dire qu'il y a un grand conseil. Hein, c'est-à-dire, nous sommes plus de 55 jurats. Nous avons aussi des sympathisants hein, qui soutiennent la confrérie. Et le grand conseil, c'est 15-16 personnes. Donc c'est un conseil d'administration, exactement la même chose. On appelle ça grand conseil. Ça fait peut-être un peu plus... grandiose, hein, grandiloquent quelque part. Et ça nous permet tous les mois de se réunir, c'est-à-dire sur l'organisation, sur le fonctionnement, sur les perspectives, parce que nous sommes invités dans de nombreux salons de gastronomie, par des communes qui veulent aussi faire un casse-croûte aux tripes. Voyez-vous, c'est tout ça. C'est tout ça. Ça fait partie de la vie d'une association.
C'est... ça se passe à peu près de la même manière à la Baleine.
Au niveau de la confrérie de la Baleine, on se réunit à peu près au conseil d'administration. Alors, ce n'est pas un grand conseil d'administration, nous sommes 12 membres. Hein, donc, nous sommes 12 apôtres de notre chère Baleine. Et on se réunit à peu près une fois tous les deux mois. Et bon, ça peut être un peu plus fréquent dans la mesure où nous avons des activités à organiser. Et puis, ce qu'on essaye, c'est effectivement, parce qu'à une certaine époque, il y avait les intronisations du mois de juillet, les intronisations du mois d'août, et puis on ne voyait pas trop non plus nos chevaliers organiser des manifestations. Donc effectivement, on s'est retroussé un petit peu les manches en disant, voilà, il faut absolument qu'on parle de notre baleine. Et on a commencé effectivement par le 14 janvier, c'est-à-dire depuis 3 ans. On fait une cérémonie le soir au flambeau, sur la plage. On dessine une grosse baleine, on met des torches pour marquer l'emplacement de l'échouage de la baleine. Et puis, on défile dans la rue de la mer, dans la place du Petit Enfer, sur l'Acheté, sur la digue. Et puis, on essaie d'avoir une animation musicale. Et ce qui est important, c'est, on le voit bien dans les autres confréries, c'est qu'une confrérie, elle se voit que si elle est, une tenue assez particulière. Alors c'est vrai que nous, on avait une espèce de tunique bleue. Et puis, depuis quelques années, on s'est dit, mais toutes les confréries ont au moins un chapeau. C'est bien d'avoir une médaille, mais s'il n'y a pas de cap, c'est une cape que je cherchais, oui. S'il n'y a pas de cape, il n'y a pas de chapeau. Donc, on s'investit dans un chapeau. Et puis, on a réinvesti aussi dans des capes, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'intronisés qui voulaient bien défiler avec nous, mais ils défilaient, mais ils n'étaient pas capés par le fait. Donc, ils étaient beaucoup moins motivés. Donc, c'est vrai que maintenant, on commence à voir beaucoup de gens qui défilent, et c'est bien. C'est bien.
On n'a pas forcément le temps de décrire en détail les alors on dit les tenues, les uniformes plutôt.
Oui, les tenues.
Les tenues de vos deux confréries.
On appelle ça des capes. Nous.
Mais elles sont particulièrement travaillées, donc j'invite les auditeurs à aller voir la tripière d'or. Je sais que vous êtes en rouge, pareil avec une cape, un chapeau.
Rouge et bleu, la couleur de Caen.
Rouge et bleu, les couleurs de Caen. On va continuer avec vous dans quelques minutes pour parler aussi d'une confrérie aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça a plusieurs décennies d'histoire. Mais d'abord, on retrouve Thomas avec une chronique qui va nous donner quelques conseils pour mieux manger, justement.
Chez nous, on aime bien savoir ce qu'on mange.
J'aime quand c'est fade, quand c'est amer, j'aime quand c'est cru, quand c'est cuit, j'aime quand c'est brûlé, quand c'est congelé, quand c'est périmé. En fait, je suis tout au fond.
Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon.
Aujourd'hui, on parle confrérie et donc par la force des choses, on parle alimentation. Alors pour commencer, un grand merci à ces hommes et femmes qui valorisent nos artisans, qui prennent le temps de comprendre ce qu'ils ou elles mangent, qui dégustent et qui ne mangent pas sur le pouce, mais qui parfois le sucent pour ne pas en laisser une miette. Alors bravo à ces confréries qui instaurent une concurrence, mais saine, entre producteurs, artisans, qui ne se basent pas que sur le prix, mais surtout sur le goût. On tire vers le haut le produit et c'est tout l'intérêt pour le consommateur, mais aussi pour l'environnement. Alors mais malheureusement, tout le monde n'est pas comme vous, chers confréries. Aujourd'hui, on ne laisse plus la part belle à la nourriture. On ne mange majoritairement plus que pour s'alimenter à la va-vite. À noter un chiffre qui le prouve. En 1960, le budget alimentaire pesait 29% du budget de consommation pour descendre en 2019 à 17%. Alors je vous rassure, il reste encore de bonnes choses à manger sur nos étals de marché. Peut-être un peu moins chez nos hyper, super et Intermarché. Mais alors, comment trouver le bon produit? Eh bien, en France, nous avons la chance d'avoir quand même 6 labels plutôt bien contrôlés avec des cahiers des charges stricts. On a les AOC, donc appellation d'origine contrôlée, les AOP, le label rouge, l'IGP, qui note la transformation dans une zone, dans un territoire, le label agriculteur biologique et le label STG, un peu moins connu, spécialité traditionnelle garantie, qui garantit une recette. Mais vigilance à ceux qui travestissent l'étiquette en label. Alors je vais dénoncer les super, les hyper tricheurs.
Attendez bien là.
Eh oui, il faut quand même que je dénonce. Voilà, je suis là pour ça. Alors, pour exemple, nous pouvons retrouver l'étiquette Origine France qui stipule que l'animal est né, élevé, abattu, découpé et transformé en France. Mais attention, parce que même si on achète du porc avec l'étiquette porc français, il y a de fortes chances qu'il provienne d'un élevage industriel, un modèle productiviste qui représente environ 90% de la production nationale. Alors, pour être honnête, ce n'est pas l'étiquette qui m'emmerde le plus. Il y en a une pour laquelle j'ai vraiment l'impression d'être pris pour un jambon. Vous l'avez toutes et tous au moins vu une fois sur les étals, c'est la saveur de l'année. Alors c'est une vraie fumisterie cette étiquette. Alors je vous donne l'explication, c'est la société Monodia qui a créé ce label en 1997. Il ne s'agit donc pas d'un vrai label. Alors comment ça se passe ? Un panel de 120 consommateurs goûtent à l'aveugle des produits et doivent désigner celui qu'ils préfèrent. Et comment sont choisis les mets testés ? Eh bien, c'est ici la limite. Les fabricants doivent payer pour que leurs produits soient goûtés. Par exemple, le fromage élu saveur de l'année, c'est le meilleur parmi quelques-uns sur le marché, souvent issu des grands groupes qui ont les moyens de concourir. D'ailleurs, difficile de savoir combien ou lesquels. Et concernant les critères d'attribution, ici on parle de goût. Un point c'est tout, la composition, l'équilibre entre les ingrédients, la provenance ne sont pas prises en compte. Cela peut être donc un gage de qualité gustative, mais c'est assez peu contraignant pour que l'on puisse s'y fier systématiquement. Et de toute façon, la saveur de l'année des fromages, je vous le mets le doigt dans le mille, c'est le camembert au lait cru moulé à la louche de chez Gillot à Saint-Hilaire-de-Briouze. Petite dédicace, je viens de Briouze, c'est pour ça que je le cite. Et je ne vous parle pas d'étiquette produit de l'année, je ne sais pas si vous le voyez, c'est l'étiquette rouge produit de l'année qui là encore est douteux, plutôt basé sur des critères marketing comme l'emballage ou l'innovation. Alors pour remédier à tout ça, je conseillerais bien évidemment à tous nos auditeuristes de se rendre au marché, et je vous l'assure, ce n'est pas plus cher qu'en grande surface. Nous sommes diffusés Bonjour Turbine sur Alençon et Caen, donc je vais vite fait rapidement lister les marchés qui s'y trouvent. Alors pour Alençon, rendez-vous au marché de Persaigne le mardi matin, place de la Paix, le jeudi ou le samedi matin, place de Magdelaine au pied de l'église Notre-Dame, ou le dimanche matin au marché de la Courteille, place du Point du Jour. Et à Caen, on est bien garni aussi. Alors le mardi, rue de Bayeux ou place du Commerce, quartier de la Grâce de Dieu, le mercredi, rue de la Défense Passive, quartier Calvaire-Saint-Pierre et avenue Charlemagne, quartier Venois, le jeudi, place de la Liberté, quartier de la Guérinière, et avenue Président Coty, quartier Chemin Vert. Le vendredi, vous le connaissez tous aussi, c'est place Saint-Sauveur. Le samedi, boulevard Leroy et place Champlain, quartier de la Pierreuse. Et le dimanche, le plus grand marché de Basse-Normandie, au bassin Saint-Pierre, sur le port de Plaisance. Voilà, j'ai donné mes conseils, Raphaël.
Eh bien, merci Thomas. Et on t'attendait bien sur la spéciale dédicace au camembert Gillot, qui a eu des récompenses dernièrement de médailles d'or au concours général agricole.
Exactement, au salon de l'agriculture. D'ailleurs,
ça qui est une vraie récompense pour le coup.
Une vraie récompense. Et d'ailleurs, la l'égérie de l'année dernière, c'était Oriette, une vache qui vient de Saint-Hilaire-de-Briouze, voilà. Et qui
incroyable.
Produit du lait pour Gillot. Voilà, j'ai fait ma promo, c'est bon.
On se retrouve dans quelques instants avec nos invités. D'abord, une nouvelle pause musicale. Une chanteuse qui en a dans les tripes. C'est pas moi, c'est Alain qui le dit, mais je suis d'accord avec lui. C'est Santa, la chanteuse de Hyphen Hyphen, avec le titre Call My Name. I'm gonna take you for a ride. For a ride, a long ride home. And there's nothing to say, there's nothing to lose. I'm gonna take you for a long ride home. Though there's nothing left to say, the day's coming. C'est Hyphen à l'instant sur Bonjour Turbine, émission Bonjour Turbine sur Station B ou Radio Pulse, selon où vous nous écoutez. Alain, tu voulais en profiter, c'est une chanteuse qui est venue dans le coin, anciennement au WIP, la grande halle, ici à Colombelle, faire une petite dédicace.
Oui, il y avait eu un spectacle avec Tendance Ouest, et donc il y avait Hyphen et... Santa, justement, nous avait raconté son passé dans la Grande Halle. Alors, tout le monde se regardait parce que la Grande Halle, quand elle nous parlait d'être venue faire un concert, elle était complètement à l'abandon. Et en fait, elle avait fait, avec un certain nombre de personnes, un concert pirate. Et donc, elle était partie de chez elle. Elle avait fait le mur. Elle avait 16 ans ou 17 ans pour pouvoir venir chanter dans la Grande Halle. Donc, elle arrivait dans un endroit qu'elle connaissait depuis plus longtemps que les Whippers qui étaient là. Et en parlant des Whippers, je voudrais leur dire, s'ils nous entendent, que on pense très fort à eux, que ce soit les anciens salariés ou les bénévoles. Et deux jeudis sur quatre, on fait Bonjour Turbine, 19h, 20h, la porte vous est ouverte si vous voulez passer. Ce sera avec plaisir qu'on vous fera des coucous en vrai.
En attendant, avec nous en studio, toujours Jacques Lelandais de la confrérie de la Tripière d'Or et Claude Bossard de la confrérie de la Baleine. Jacques, pendant la musique, vous réagissiez à la chronique de Thomas et vous nous disiez que la recette, la véritable recette de la tripe à la mode de Caen était aussi des fois menacée par certains arguments marketing.
Tout à fait. Il nous arrive de trouver dans les commerces, je dirais dans les supermarchés, des tripes à la mode de Caen, au Galvados, au vin blanc, au muscadet, pour bien le préciser, au cidre. Alors la tripe à la mode de Caen, il n'y a aucun alcool. Donc c'est galvauder un titre et c'est utiliser un titre. Alors c'est pour cela que la confrérie actuellement travaille sur la labellisation de la recette et c'est pas facile. On a voulu sur le plan de l'UNESCO déposer aussi un dossier. On a commencé à travailler là-dessus, mais c'est un long chemin et on est aidé par une, je dirais, une députée européenne pas loin, une jeune femme, une jeune et belle femme que vous connaissez tous, Stéphanie Courtin, et qui nous aide aussi dans cette démarche. Parce que on doit défendre, vous savez, le cassoulet de Castelnaudary, vous le faites pas avec des lentilles. Voilà, c'est exactement la même chose que pour la tripe à la mode de Caen.
Eh bien, vous nous raconterez ça prochainement. S'il y a un label qui est obtenu, on en parlera dans Bonjour Turbine. Alors, quelques minutes encore avec vous. On voulait aussi parler de ce que c'est être une confrérie aujourd'hui, parce qu'on voilà, on l'a dit, il y a de l'histoire derrière, plusieurs décennies pour chacune de vos confréries. Comment on continue, comment on transmet aussi à des jeunes, à des femmes aussi, parce que jusqu'ici, les confréries étaient quelque chose de très masculin. Voilà, comment on se renouvelle ?
Alors ça, je suis heureux d'entendre cette question-là parce que je suis un fervent défenseur du positionnement de la femme au milieu d'un monde d'hommes. Et qu'elle soit dans toutes mes attributions que j'ai eues et toutes mes responsabilités, j'ai toujours défendu ce principe sur le plan professionnel comme sur le plan électif. Vous voyez ce que je veux dire. Donc lorsque j'ai eu la chance d'être nommé grand maître de la Tripière d'Or, j'étais devant des hommes de tout âge, hein, parce que la confrérie, c'est intergénérationnel, mais c'est aussi intersocial. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder quel est votre titre, quelle est votre qualité intellectuelle. Non, non, ce sont des amoureux de la tripe à la mode de camp.
Donc ça, cette diversité-là voilà, existait
c'est
déjà.
C'est ça. Mais pour faire venir des femmes, bien entendu, c'est pas évident. J'ai eu un petit peu des remarques de collègues qui me disent oh, mais non, on va pas faire venir des femmes parce que c'est un sujet à histoire. J'ai dit pas plus qu'avec des hommes, donc j'ai fait voter et la première femme est rentrée il y a 2 ans, c'est une jeune femme en plus qui est maintenant au dire de ces hommes qui n'étaient pas favorables au rayon de soleil de la Tripière, voyez-vous, comme quoi on peut changer, et tant mieux. Et aujourd'hui, nous avons 2 autres femmes qui sont rentrées, donc nous sommes actuellement, nous avons 3 jurates au sein de la confrérie. Bon,
on est encore loin de la parité, mais ça progresse. À la baleine, la diversité en âge, en profils sociaux, est-ce que vous avez des femmes aussi
Que ce soit homme ou femme, ça ne change pas grand-chose dans notre confrérie. Et effectivement, on est à peu près, je crois, au niveau de notre chapitre, puisqu'on appelle un chapitre, on doit être à peu près 50-50 entre les hommes et les femmes.
Alain me souffle une question, vu qu'il n'a pas de micro. Il voulait que je vous fasse dire la devise de la confrérie de la baleine. Je ne sais pas si vous en avez une à la Tripière d'Or.
Oui, il y a une devise au niveau de chevillé de la baleine, oui.
On vous écoute.
Il y a qu'à Luc, c'est assez. Voilà. Vive Luc, c'est assez. C'est assez dans le sens du mollusque, du crustacé. Voilà.
C'est joli, joli. Bien trouvé.
À nous, il n'y a pas vraiment de. Il y a une chanson hein, sur la tripe à la mode de camp. Je ne vous la chanterai pas ce soir.
Ouais, c'est pas l'heure.
Je reviendrai. Non, puis. C'est une chanson, je dirais, très conviviale qu'il faut qu'on soit nombreux pour que ça fasse un peu de bruit.
Okay. Mais, on viendra vous enregistrer.
Mais par contre, nous avons un serment lorsque nous introduisons un serment à lire et le récipiendaire doit jurer sur ce serment.
C'est ce qu'on fait chez nous. Donc, vive Luc, après Luc, c'est assez.
Merci beaucoup à tous les deux, Jacques Lelandais et Claude Bossard, pardon, j'ai rajouté un R, de la confrérie de la Tripière d'Or et la confrérie de la Baleine, d'être venus dans Bonjour Turbine. Alors, on va rendre l'antenne sur Station B, mais on continue l'émission pour ce qui n'est pas dans le direct. Merci à tous et à tout de suite pour ceux qui restent. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, moi je me suis compris.
La gastronomie à la française. Depuis le mois d'octobre 2010, la gastronomie à la française a fait son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je ne peux que saluer cet effort diplomatique et intellectuel consenti par nos représentants sur leur précieux temps de travail qui éleva la blanquette de veau au rang des ruines de JC. La gastronomie, il est vrai, est une spécificité française, en tout point de son territoire et en autant de traditions pittoresques. Intéressons-nous, et j'y invite sincèrement tous nos amis lecteurs étrangers, tous les spectateurs et tous les auditeurs, à l'une d'elles en particulier. Au cœur de la Champagne-Ardenne niche la ville de Troyes. Troyes au toit en pente, aux rues en dédale, tortueux et aux nombreux clochers dont le calme imperturbable n'aurait point déplut au regretté Drieux La Rochelle. Il est 21h. Nous sommes devant la boucherie à l'enseigne imagée pour d'éventuels illettrés d'André Polignac, ou plutôt de Maître Tripou, comme il se fait appeler ce soir. L'affable boucher se presse du mieux qu'il peut pour faire entrer la trentaine de personnes qui attendent sur le trottoir. La vénérable boucherie se trouve alors envahie par une foule homogène, tant dans la corpulence que l'uniforme. Ici, frère Vera et sa toque rutilante, là, frère Marteau et sa cape noire, ou encore frère Farsou et son fermoir doré. Ce soir, au siège de la véritable confrérie des chevaliers de la Taste, Andouille affidée 5A, les honorables chevaliers se réunissent pour initier le jeune Kevin Polignac au rang d'homme et de gastronome. C'est en se congratulant mutuellement que les membres de la confrérie mènent l'enfant les yeux bandés à la cave. Une fois débandé, le jeune Kevin laisse aller son regard dans la salle festonnée qui fleure bon le cochon. Homme et Andouille réunis en une communion olfactive et visuelle. Au centre, un autel derrière lequel se dresse de toute sa taille Maître Tripou. Il ne peut s'empêcher de laisser transpirer une émotion à la vue de ce fils qu'il va initier. Le voilà, brandissant avec émotion, brandissant une andouille la plus longue que tout ce que l'homme ait pu voir jusqu'à présent. Il l'attend à son fils pour que celui-ci la mange dans son entièreté. Alors que le jeune Kevin se lance dans l'épreuve initiatique, pareil à un jeune dogon chassant seul pour la première fois, l'assemblée entonne en fredonnant un chant sacré. Il me semble reconnaître les premières notes du petit bonhomme en mousse. L'attente est interminable. Malgré quelques renvois, le jeune Kevin ingère son andouille et sous le regard affectueux d'un père comblé, prend le nom de frère Naso. Pour fêter cela, les chevaliers s'échangent des tranches de lard fumé dont ils se délectent. Respectant leur intimité, je quitte les lieux à pas de loup, non sans jeter un dernier regard au visage plein de joie de frère Naso. Comme le disait si bien Drieux La Rochelle, je n'ai jamais vu la dignité de l'homme que dans la sincérité de ses passions. Alors, ce petit texte a été, non pas une fois n'est pas coutume, ce n'est pas de moi, c'est d'un de mes amis qui avait fait ça lors d'une session d'écriture. Mais quand on m'a dit qu'on allait faire cette émission, je me suis dit qu'il était fort approprié.
Est-ce qu'on peut citer son nom ?
Grégory Bonnet.
Voilà, à retrouver dans un petit recueil, oui, je ne sais pas s'il est disponible.
C'est un petit florilège des hypophages.
Voilà. En tout cas, merci David pour cette lecture qui nous a mis en appétit, il faut le dire. On finit en s'amusant, en jouant, en testant nos connaissances avec un quiz autour des confréries. Alors, on n'a pas défini qui jouait. Je ne sais pas si nos invités qui sont toujours en plateau veulent se prêter au jeu. Allez, on part là-dessus et j'affiche les questions des animateurs du jeu. Moi, personnellement, je vais laisser ma place. Allez, Thomas.
Petit quiz confrérie. Il existe un festival des confréries qui se tient début mai. Dans quelle ville ?
Très bonne question.
Luc-sur-Mer.
Non.
Ah.
C'est à Charleville-Mézières que se tient ce festival. Il réunit chaque année, au cours du premier week-end de mai, une cinquantaine de confréries françaises et belges sur la place du Cal. Chaque année, une confrérie française ou belge est désignée comme invitée d'honneur. Elle organise devant le public un chapitre exceptionnel au cours duquel personnalités et membres d'autres confréries sont intronisés. Alors, là, on va faire un saut dans une autre confrérie. Il existe une confrérie de la tête de veau, dont les membres, des veaux et des veaux d'or, chaque année, ils remettent le Vitellus d'or de la meilleure tête de veau du pays de Retz. Donc on est du côté de Nantes. Près de quand, chaque année, un veau d'or est aussi remis? De quoi s'agit-il et où cela se passe-t-il?
Est-ce que c'est dans un comice agricole ou un truc comme ça?
Pas vraiment, non.
C'est pas un comice agricole?
Non, pas un comice agricole.
C'est lié à une même recette que le veau d'or de Ré?
C'est lié au nom de la manifestation.
C'est pas la foire de Caen?
Non, c'est pas la foire de Caen. Ça se passe. Alors, je vais vous donner un indice. Ça se passe à Hérouville-Saint-Clair.
La fête des communautés, on m'a soufflé derrière.
Non, c'est pas la fête des communautés. Eh ben, ce prix est remis à un dessinateur, auteur de BD, pendant le festival des planches et des vaches.
Ah.
En avril 2024, c'est Cyril Ternon qui a fait récemment le banquier du Reich, qui l'a reçu. Il sera donc le président de la prochaine édition et une exposition lui sera consacrée. Et c'est lui qui réalisera l'affiche de la prochaine édition.
Ah, tu nous as bien eus, alors.
La confrérie des Connards, ou Cosnards, organisait la fête carnavalesque du 15e au 17e siècle à Rouen pendant les jours gras. C'est vrai ou c'est faux?
Oh, ça semble vrai, hein.
Moi, je connais les gens qui s'appellent Cosnards.
Donc, oui, je connais les Cosnards.
C'est vrai, elle organisait des fêtes burlesques. La fête et la confrérie disparurent sur une interdiction du cardinal de Richelieu. Il existait des confréries des Connards à Évreux, Cherbourg et au Puy-en-Velay. Il existait aussi des confréries équivalentes, le Badin et le Turpin à Paris, le Maugouverne à Poitiers, la Mère Folle à Dijon, et j'en passe, et d'autres des meilleurs.
T'as oublié de citer Matignon. Merci.
Elle est lisée aussi si tu veux. Que promeut la confrérie de la Cacoule?
De la Cacoule?
De la Cacoule, pas de la Cagoule.
Des cagoules?
Pas de cagoule.
Est-ce que c'est encore lié à l'alimentation?
C'est une forme d'alimentation, oui.
C'est un coquillage?
Ben non, ça ressemble, c'est pas la cagouille.
Oui, c'est
donc,
pour ça.
Non, il ne s'agit pas d'escargot, mais de berlingot. Ah, c'est à Le Cabot, dans le nord, près de Cambrai. C'est organisé par la commune libre du Corbeau.
Ok. Eh ben, on en sait plus. Merci beaucoup, Alain.
Merci à nos deux invités. Merci Marion, toujours au top et à la technique. Merci David et Thomas pour vos brillantes chroniques. Et merci Raphaël pour m'avoir accompagné dans l'animation de cette émission.
Eh bien, c'était avec grand plaisir, Alain. On était contents de partager ce moment avec vous, chers auditeurs, en direct sur Station B, en différé sur Radio Pulse ou en réécoute sur les plateformes habituelles. Merci encore à nos deux invités d'être restés jusqu'au bout de l'émission. Claude Bossard de la confrérie de la baleine, un grand baleinier, et Jacques Lelandais, grand maître de la confrérie de la tripière d'or. Bonne soirée à vous toutes et tous. À bientôt pour le 71e opus de Bonjour Turbine. We'll be right back.